Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, aujourd'hui qui est, encore une fois bien chargée. On va parler de la proposition de la défenseur des droits ou défenseuse, je ne sais plus comment on dit. Faut-il des quartiers sans contrôle d'identité, le protocole allégé dans les écoles, les hôpitaux en organisation de crise. On voit pas, il y a un peu de contradiction dans les mesures du gouvernement. Et puis LREM, haro sur Marine Le Pen, visiblement le gouvernement semble s'organiser pour essayer de combattre la présidente du Rassemblement National. Aujourd'hui, Patrick Mignon, bonjour. Ancien bonjour, commandant de bord, porte-parole de VIA, la voix du peuple. Frédéric Dabi, bonjour, directeur général adjoint de l'IFOP, bonjour. Sophie de Menton, vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et on attend Romain Colas, qui est secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine, et qui ne devrait pas tarder à arriver. Alors on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Frédéric, puisque je... Oui. Assez curieusement, je partage votre avis.
Curieusement, on est souvent d'accord quand même.
Allez-y.
Non, c'est un coup de gueule quand même sur la une du Parisien d'hier. Une était la suivante. Inceste, Duhamel, l'homme cloîtré, avec une, trois pages. Ouais. Ça feuilletonne à tout va, un peu comme un vulgaire gala Closer.
Attention pour gala.
C'est clair qu'on convoque la figure réprouvé, un peu comme l'était Gabriel Mazneff. Et là, on a vraiment du journalisme de très très haut niveau. Oui, Olivier Duhamel met une casquette pour ne pas être vu. Il sort son chien. Les commerçants disent qu'il n'est pas très sympa. Et puis tout simplement, on donne le nom de la rue où il habite, absolument, que je ne donne pas, dans le 5e arrondissement. Une rue en plus politiquement célèbre. Voilà,
C'est scandaleux.
C'est du degré zéro du journalisme. Et moi, ce qui me frappe, c'est... Et le monde est tombé dans ce travers aussi, pardon de le dire, c'est la reconstruction de sa vie a posteriori. Il a commis des actes condamnables, inqualifiables, inadmissibles. Est-ce que c'est la peine de reconstruire toute sa vie en disant, de toute façon, c'était un homme mauvais, méchant, avide de pouvoir, qui ne vivait que par l'ambition? Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais les faits sont suffisamment graves pour laisser la justice peut-être passer et le laisser tranquille.
Alors non seulement je partage ce coup de gueule, mais j'ai même tweeté quand j'ai lu Le Parisien dimanche hier. J'ai tweeté en disant qu'est-ce qu'on veut ? On veut pousser cet homme au suicide ? Parce qu'il y a un moment où le lynchage, pendre quelqu'un en place de grève, avant un procès d'ailleurs. Je comprends qu'on fasse le procès d'une époque. On peut imaginer que là, et c'est vrai, c'est plus large. Il y a une époque permissive, etc. Mais cet homme, avec la race de son chien, interrogeait l'épicière. Et alors, comment vous le trouvez ? Oh, il a une petite mine, hein, quand même. Il est toujours les yeux baissés. Mais je lui dis plus bonjour, hein. Je trouve ça, lamentable. C'est degré zéro. Alors, sur Twitter, il y a quand même des gens qui m'ont répondu, oui, mais il paye pour tous les autres. Alors ça, bon, voilà. Mais non, ça s'appelle un bouc émissaire, payé pour tous les autres. Il n'y a aucune raison qu'il paye pour tous les autres. Oui. Et donc, vraiment, c'est discréditer la presse que de faire des choses comme ça.
Oui, je partage. Enfin, je suis la première à être très virulente sur toutes les agressions sexuelles et très intransigeante, mais je trouve que ça n'a rien à voir. Et effectivement, j'ai été très étonnée que Le Parisien fasse ce genre de une et ce genre d'enquête. Qui effectivement n'apporte rien, va effectivement donner l'adresse d'un homme. Enfin, je trouvais ça assez minable aussi.
Il peut se faire dire avec un barge ou des gens haineux, etc. S'il a un accident, Le Parisien est responsable.
Une réaction, Patrick Mignon ?
Non, je partage votre sentiment. La justice est là. On est dans un état qui est justice et des codes parfaitement publiés. Si Duhamel est, je pense, une énorme responsabilité morale, pour autant, ce n'est pas à la poissonnière du coin de le dire comme ça, et encore moins aux Parisiens et à un journal national, ou tout au moins local, de le publier. Voilà. Je suis d'accord avec vous, il n'y a rien d'autre à dire. C'est minable dans tous les sens.
Ça n'a absolument rien à voir, mais j'ai souvenir du titre du livre de Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis dans les années 90. Son livre sur sa vie très tourmentée, très tragique, s'appelait « Justice n'est pas vengeance ».
Oui, absolument. Romain Colas,
c'est très juste ça.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour, vous nous avez rejoint.
Oui, je suis désolé, j'ai eu un petit accident, je suis privé de main droite provisoirement et ça me ralentit considérablement mes mouvements.
Ah oui, ça, surtout si vous êtes droitier.
Mais évidemment, sinon c'est pas drôle. Ouais.
Un mot sur cette une du Parisien d'hier.
Pour vous dire les choses franchement, je suis un lecteur quotidien du Parisien.
Ouais. Oui, moi aussi d'ailleurs.
C'est le rituel d'ailleurs de beaucoup d'élus de la banlieue parisienne comme moi que de commencer sa journée en lisant le Parisien. Je ne l'ai pas ouvert hier.
Ah, d'accord.
Très franchement, je suis très heureux évidemment que les paroles de victimes se libèrent, que la société fasse preuve de moins de mansuétude coupable qu'elle ne le fut à une époque à destination des pédocriminels. Mais je suis toujours gêné avec le lynchage. J'ai un problème de fond avec ça, donc je n'ai pas ouvert le Parisien hier. Ouais. Et je crois que j'ai bien fait en vous écoutant.
Romain, alors vous, c'était, on va passer à quelque chose un petit peu plus joyeux, un coup de cœur.
Oui, un vrai coup de cœur, parce que grâce au 15 de France, j'ai passé un excellent moment hier après-midi en regardant le match contre l'Irlande. Je ne suis pas du tout un spécialiste de rugby, mais j'adore l'ambiance du rugby. Je ne suis pas le top 14, mais j'ai eu le plaisir à une époque où c'était autorisé d'aller dans des stades, voir des matchs des destinations. C'est une ambiance tout à fait particulière. Ça faisait très longtemps que la France n'avait pas le vent en poupe, hein, le 15 de France. Et là, on sent que le travail mené par Galtier autour de cette équipe de jeunes, là, puisqu'on a la moyenne d'âge, c'est 24 ans, commence à payer. Et on a un 15 de France que je trouve enthousiasmant et grâce auquel j'ai passé hier, et c'est suffisamment rare pour être souligné dans la période, un agréable moment.
Eh ben voilà, c'est une bonne chose. Vous avez regardé, Frédéric?
Malheureusement, j'aimerais bien, mais ça m'ennuie.
Ça fait maintenant deux tournois destination que la France est plutôt en bonne position après une dizaine d'années de disette, voire de matchs catastrophiques. Et y a quand même, si tout va bien, une Coupe du Monde en France prévue en 2021.
Ouais. Patrick Mignon?
Ah oui, j'ai regardé, bien sûr. Et d'ailleurs, j'avais envisagé de faire un coup de cœur là-dessus. Bon, je pars sur un coup de gueule après parce qu'un autre événement m'a plus accaparé, mais je suis d'accord avec Romain Collat. Ça a été un match fantastique. Pour l'ambiance, on peut repasser, hein, parce qu'à Stade Vide, ça doit être bizarre pour les joueurs. Moi qui assistais pas mal de matchs à Bayonne, à Jean Dauger avec l'aviron bayonnais, il y a une ambiance extraordinaire. Donc vraiment, bon, ils ont souffert, mais ils ont gagné et c'est la victoire n'en est que plus belle.
Eh ben, très bien. Alors Sophie, c'est un coup de gueule.
Oui, c'est un coup de gueule qui est économique un peu, mais un coup de gueule qui va plus loin que ça, parce que c'est une atteinte à la liberté des Français. On pourrait trouver sympathique qu'il y ait des chèques ciblés. Nous sommes abreuvés de chèques par l'État.
C'est quoi un chèque ciblé?
Un chèque ciblé, c'est un chèque qu'on vous donne, soit si vous êtes étudiant, que vous n'êtes pas bien pour aller chez le psychologue, soit qu'on vous donne pour acheter des légumes bio, parce que c'est meilleur pour votre santé. Ça existe, le chèque légumes bio.
D'accord.
Nous avons le chèque sport, pour faire un peu de sport parce que c'est bon pour la santé. Nous avons le chèque essence pour faire le plein.
Et qui est donné à qui? Par qui? Par le gouvernement?
Alors, c'est évidemment par le gouvernement.
Il a des lancé populations ciblées.
C'est ciblé. Le 1er février, par exemple, le dernier, c'est le chèque psy pour les étudiants. Ils sont en train de plancher sur un chèque alimentaire qui permettrait aux ménages modestes d'acheter des produits issus de l'agriculture biologique, parce qu'ils n'auraient pas les moyens et que ça favorise les circuits courts. Donc, à chacun ça, son chèque. Et alors, ce qui est plus grave, c'est que derrière chaque chèque, il y a une administration qui pousse. Alors, il y a une administration, vous imaginez, en plus, on peut imaginer aussi le remboursement du commerçant qui va donner son chèque. Il y a des... Donc, on en met de toutes sortes et c'est très grave parce que d'abord, le gouvernement décide effectivement des revenus modestes qui en ont plus ou moins besoin, donc on ne sait pas sur quels critères. On s'aperçoit également que pendant toute cette période, il y a les Français ont économisé. Donc, c'est pas très malin d'aller leur donner des chèques en plus.
Bah, et il y a quand même des gens qui sont extrêmement démunis.
Mais bien sûr qu'il y a des gens
qui ont besoin de ces chèques.
Je pense que, si vous voulez...
Il y a des gens qui n'arrivent pas à économiser.
C'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à économiser, quoique c'est assez étonnant. Il y a vraiment, bon, quand même, il n'y a pas que des gens, malheureusement, heureusement, qui sont en vraie, vraie nécessité. Mais au-delà de ça, ça va beaucoup plus loin parce que, au lieu de baisser, je ne sais pas, à ce moment-là, la TVA, les impôts, parce que tout le monde a directement payé des impôts. Non, on va redistribuer. Et on redistribue pour que les gens dépensent de façon fléchée et de la façon dont le gouvernement le souhaite. Et c'est assez grave parce que, par exemple, vous allez remplacer votre machine à laver, vous avez l'éco-chèque. D'ailleurs, le MEDEF s'y met, hein, c'est recommandé par le MEDEF. Vous avez le chèque vert, si vous voulez acheter une lampe vintage en ressourcerie. Vous avez...
Donc comment on fait pour les avoir, ces chèques?
Alors, vous avez le chèque libraire aussi pour avoir ça. Vous donner, si vous voulez absolument des chèques, Valérie, je vais me débrouiller pour vous en ayez.
non, mais c'est...
Vous tapez chèque sur Internet et vous devez avoir toutes les solutions. Alors, vous avez le chèque libraire. C'est vrai que c'est bien d'inciter les gens à acheter des livres, mais je trouve ça terrible. On a de moins en moins de liberté. On a un État nounou qui nous gère complètement, qui gère notre consommation, qui cible ce qu'on doit acheter, le moment où on doit l'acheter, qui présume que c'est en ce moment que vous avez le plus besoin de légumes bio.
Et donc, on a compris principe et vous dites que en fait,
mais c'est un vrai danger bureaucratique. Non, mais c'est très sérieux, c'est compliqué. C'est un instrument très ciblé en termes d'individus, de consommation des ménages. Et la pandémie justement a redoublé ce comportement.
Alors, il faut dire qu'il y a quand même près de 12 millions de Français qui sont considérés comme étant en situation de précarité.
Et... Pas 9 millions.
Bah là, je vois un chiffre qui est de 12 millions. Bah
oui, je crois qu'il y en avait quand même moins.
Le nombre de Français sous le seuil de pauvreté en 2021, alors je ne sais pas comment ils ont fait leur...
On est plutôt sur un chiffre de 8 à 9 millions, ce qui est déjà
Il ne s'agit pas de la statistique officielle de l'INSEE, effectivement. Bah oui. Allez, on doit marquer une pause.
Mais je veux bien qu'on donne de l'argent, effectivement, s'il faut, mais pourquoi ces gens-là ne sont pas capables d'acheter ce qu'il faut acheter?
Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, faut-il des quartiers sans contrôle d'identité? C'est la proposition faite par la défenseure des droits. On va parler du protocole allégé dans les écoles et à l'inverse d'une organisation de crise dans les hôpitaux. Comprends pas bien. Et puis Haro sur Marine Le Pen, La République En Marche s'organise. Allez, Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de Via, La Voix du Peuple, Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique, sont là pour débattre ce matin. Patrick Mignon, alors peut-être on avait un coup de gueule commun avec Frédéric avant de vous donner la parole, Patrick, parce que votre coup de gueule était un des sujets qu'on voulait évoquer à propos de la dissolution de Génération Identitaire. Je spoil un petit peu, je divulgâche. Je voulais revenir sur les victoires de la musique et ce discours totalement victimaire fait par la chanteuse Iseult qui a brandi son poing en disant « Nous allons gagner, on n'accepte pas encore les différences des gens, malheureusement je suis noire, malheureusement je suis très forte corporellement et qui estime être victime de discrimination. » Mais on a envie de lui dire, si elle a une victoire de la musique, c'est qu'elle est reconnue quelque part. Elle est reconnue, même pas quelque part, elle est reconnue tout court. Donc pourquoi toujours introduire cette notion-là?
Mais parce que ça correspond à un mouvement qui est gravissime. Et Valérie, on a raison, parce qu'on devrait même pas en parler tellement c'est honteux, ridicule. Mais ce qui est très grave, c'est que ça correspond à un mouvement qui, aux États-Unis, sévit, le woke en particulier. Et ça va beaucoup plus loin. Dans les musées, vous n'entrez pas, si vous êtes un artiste de talent, vous pouvez rentrer si vous êtes... noir, vous avez été opprimé, vous avez un problème, vous êtes trop gros. Et donc il y a une sélection, Sciences Po est en train de prendre ce virage, il y a une espèce de stigmatisation dans le bon sens, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on veut mettre en avant tous les gens qui ont eu ou qui estiment avoir des malheurs, que ce soit physiologique...
Au-delà de ça, on est dans un âge identitaire, dans un âge victimaire, où la guerre des races a remplacé la guerre des classes qu'on a connue par le passé, où les personnes s'assignent elles-mêmes à résidence. Cette Iseult, qui est plutôt une bonne chanteuse, pense que tout le monde la perçoit comme une noire, une personne à forte corpulence, mais je pense que la plupart des gens l'appréhendent comme une artiste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et c'est vrai que...
Sauf maintenant, d'ailleurs, parce qu'on ne voit plus l'artiste.
Le moment est particulièrement incongru, un moment où elle reçoit un prix que des très grandes chanteuses, selon moi, plus talentueuses qu'elles, n'ont jamais reçu. Et elle se vautre dans une fange victimaire qui n'a aucun sens.
Oui mais absolument. C'est exprès.
Alors, Romain Colas.
Je suis partagé là-dessus. Alors, je, au risque de vous paraître un peu déconnecté, je n'ai pas regardé, j'ai pas lu le Parisien dimanche et j'ai pas regardé les victoires de la musique.
Non, mais sur les réseaux.
Un maire travaille.
Sur les réseaux, ça a beaucoup circulé quand même.
Oui, bah, ça m'a échappé, moi. Ouais. Je suis resté sur le rugby ce week-end.
Ouais.
Je suis d'accord avec ce que dit Frédéric Dabi. Et dans le même temps, peut-être que cet excès, d'une certaine façon, cette forme de focalisation est le revers de la médaille aussi d'une incapacité de notre société à prendre en compte, plus qu'à prendre en compte d'ailleurs, à corriger un certain nombre de discriminations. Et donc je pense que les tensions ne naissent pas simplement de la volonté des uns ou des autres de se mettre dans une situation victimaire ou de se sentir le porte-parole de tel ou tel groupe. Je pense que notre société, vous savez, on a un idéal très égalitaire en France. Hein. Cette notion d'égalité est d'ailleurs inscrite dans notre devise républicaine, et il y a toujours eu un décalage plus ou moins fort selon les groupes, selon les minorités, entre cet idéal républicain proclamé et la façon dont c'était vécu. D'ailleurs, ça recoupe le sujet que vous vouliez aborder ensuite, qui est celui des contrôles d'identité. Je pense qu'on bascule effectivement à bien des égards dans un excès, je ne sais pas si on peut le qualifier de victimaire, en tout cas d'exacerbation d'un certain nombre de tensions, peut-être qu'on focalise trop l'attention sur un certain nombre de comportements qui, fort heureusement, demeurent minoritaires, même s'ils sont ancrés dans notre société. Mais dans le même temps, il y a des problèmes de fond dans la société française qu'on n'a jamais réussi à régler. Voilà.
Mais c'est la manière, de le faire et de s'exprimer. C'est-à-dire que elle peut faire passer ce message, qui est d'ailleurs assez complexe visiblement dans sa tête, parce qu'on n'a pas tout compris ce qu'elle voulait dire exactement, mais elle a reçu la victoire féminine de l'année. S'il y avait un ostracisme de la révélation de l'année, elle ne serait pas là. Le chemin est certainement difficile, effectivement, mais pourquoi être dans l'agressivité, je sais pas, Patrick Mignon?
Oui, ben écoutez, moi je pense que cette victimisation et ce côté victimaire l'emporte surtout. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut souhaiter, moi je ne la connais pas, je ne sais pas, je ne savais même pas qu'elle était noire, obèse, peu importe. J'espère qu'elle a eu cette victoire de la musique parce qu'elle est bonne chanteuse. Maintenant, si elle l'a obtenue parce qu'elle a d'autres conformations, c'est-à-dire sa couleur de peau,
c'est ce qui va arriver.
Sa corpulence, ça diminue la valeur des victoires en question. Donc, c'est complètement ridicule. Moi, j'en ai un peu assez de cette société où on se victimise, où on s'assigne à une identité, où on fait tout ça parce qu'on espère recueillir sur soi une majorité de suffrages. Ce qui compte, c'est la qualité intrinsèque des personnes, ni leur aspect extérieur, ni tout cela. Voilà, pour moi, c'est très clair. Alors maintenant, on donne la parole à ce genre de choses, et on s'aperçoit d'ailleurs, d'après ce que vous dites, puisque comme Romain Collas, je n'ai pas regardé les victoires, on s'aperçoit qu'elle avait un discours qui était relativement peu construit, confus, parce qu'à part l'image et qu'elle voulait donner en rappelant qu'elle était noire et de forte corpulence, il n'y avait rien d'autre derrière, donc c'est un peu dommage. Voilà. Je suis désolé, ce côté... on vous assigne à une identité est détestable. Et il est d'autant plus détestable, et je rebondis directement sur mon coup de gueule, qu'à l'envers, c'est le sujet et c'est la raison pour laquelle on prétend, notre ministre de l'Intérieur prétend dissoudre Génération Identitaire. Parce qu'on les assigne, soi-disant, à une association très identitariste. C'est faux, c'est totalement faux. Ce qu'ils font, en fait, pour eux, c'est la défense du territoire national. Alors, Monsieur Darmanin prétend vouloir dissoudre et va certainement réussir à dissoudre cette association, dont je rappelle que, heureusement, elle est défendue par Maître Goldnadel et qu'il a fait valoir à juste titre qu'ils n'ont jamais commis ni de dégradation, ni de violence à personne ou sur des objets, ni quoi que ce soit de tel. Et il le fait, Darmanin le fait uniquement par compensation de la dissolution de Baraka City, qui n'est pas du tout le même genre d'association, qui est plutôt avec un discours de haine, et la fermeture temporaire de la mosquée de Pantin. Donc moi, je considère que c'est une faiblesse du ministère de l'Intérieur que de vouloir faire ce genre d'équilibre, parce que vous vous souvenez, c'était dans une émission précédente, peut-être pas la précédente, mais celle d'avant, où j'avais dénoncé l'attitude de la LDNA, la fameuse Ligue de défense noire africaine de M. Igunchi quelque chose, j'attends encore que cette association soit dissoute. D'accord ? Donc moi, je considère que Génération Identitaire ne devrait pas être dissoute parce qu'ils ont le droit de manifester leur opposition au franchissement illégal de la frontière par des clandestins aidés par des passeurs. Et point à la ligne, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Ou alors, il faut qu'ils dissolvent toutes les autres associations qui encombrent les prétoires avec des motifs divers et variés. Je fais référence au MRAP, à la LICRA, à la Ligue des droits de l'homme, à SOS Racisme. Je fais référence à toutes ces associations qui encombrent nos prétoires sous des motifs qui leur permettent d'ailleurs de toucher grassement des amendes que leur versent ou que leur attribuent, des dommages et intérêts que leur attribuent les tribunaux.
Je pense qu'on
marche sur la tête dans ce pays à ce niveau-là. On ferait bien d'arrêter d'avoir ce genre de classement d'identité dans les boîtes. On est tout à fait, comme l'a dit Frédéric Dabi ou Sophie de Menton, je ne me souviens plus, dans la droite ligne du racialisme américain.
Exactement.
Et de cette dérive complètement délirante. Et je renvoie d'ailleurs à un film extraordinaire sur l'université d'Evergreen aux États-Unis, dans l'État de Washington, non pas Washington DC à l'Est, mais l'État de Washington au Nord-Ouest. Regardez, ça vaut le coup, ça fait froid dans le dos.
Alors, on va y revenir, parce que je pense que Romain Colas, vous allez réagir. Je précise que c'est sous le motif d'un discours de haine assumé et d'une organisation en milice privée que le ministre a engagé cette procédure de dissolution. On y revient dans un instant, 0826 300 300, si vous voulez réagir. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va parler de ces quartiers sans contrôle d'identité que souhaiterait voir apparaître la défenseur des droits, le protocole allégé dans les écoles, les hôpitaux en organisation de crise. Où est la logique ? Et Marine Le Pen, haro sur Marine Le Pen, La République En Marche s'organise. Je voudrais quand même qu'on reste un peu sur Génération Identitaire.
Avec Marine Le Pen d'ailleurs.
Oui, c'est une association.
Oui, c'est une façon de lutter contre... C'est politique, ça.
Romain Colas.
Sur la dissolution engagée par Gérald Darmanin de Génération Identitaire, bon, c'est une association qui assume très franchement son inspiration d'extrême droite. C'est une association qui...
C'est pas interdit par la loi jusqu'à maintenant.
Non, l'extrême droite, c'est pas interdit par la loi. Je ne sais pas combien de membres ou pas de Génération Identitaire ont été ou pas condamnés par la justice. Qui pardonnez-moi, quand elle est saisie par des associations de lutte contre le racisme, ne font que respecter la loi. Et d'ailleurs, je réponds à Patrick Mignon. Si elle bénéficie de dommages et intérêts, c'est que la loi a été transgressée et c'est le rôle de la justice que de sanctionner les délits. Donc, pour vous dire les choses franchement, je ne connais pas l'intégralité des motivations de droit, parce que moi, je suis attaché à l'état de droit.
Bien sûr.
Des motivations de droit qui ont conduit Gérald Darmanin à engager cette procédure. J'ai souvenir d'un certain nombre d'opérations qui ressemblaient à des organisations de quasi-milices conduites par génération. Et vous savez, je vous ai écouté patiemment quand bien même ce que vous pouvez raconter, notamment en disant que Génération Identitaire n'est pas une association identitariste, ce qui relève quand même de la tautologie
pas
la
dans
plus
cette
absolue.
Action-là.
Ce qui relève quand même de la tautologie la plus absolue. Enfin voilà, je ne vous ai pas interrompu. Des opérations de quasi-milices aux frontières françaises. Je ne vais pas pleurer franchement sur le sort de Génération Identitaire, mais. Quelle que soit la vigueur avec laquelle je combats ce que ces gens peuvent porter, je suis attaché à l'état de droit. Il se trouve qu'un avocat extrêmement conservateur, mais c'est son droit, voire ultra-conservateur, William Goldenell, a fait le choix de défendre cette association. Elle va rester en justice et la justice se prononcera. Et je ne considérerai pas, cher Patrick Mignon, qu'à ce moment-là, Génération Identitaire encombrera les tribunaux. Mais qu'elle agira comme n'importe quel justiciable, voilà, que la justice passe. En attendant, franchement, ce n'est pas mon sujet premier de préoccupation que de savoir ce que va devenir Génération Identitaire.
Maître Goldnadel, le ministre de l'Intérieur, en est réduit à considérer que la critique radicale de l'immigration illégale serait raciste et xénophobe et que désespérer de l'impuissance de l'État le serait tout autant. Alors peut-être, je vous redonnerai la parole, Patrick Mignon,
Frédéric Dabi. Je suis un peu sur la ligne de ce que vient de dire monsieur Colas. C'est vrai qu'il faut laisser la justice faire son travail. La demande de dissolution ne va pas automatiquement conduire à la dissolution. Moi, je vois que la fameuse tenaille identitaire qui avait été théorisée par le politologue Laurent Bouvet est complètement là. Les Français sont dans un sens pris en otage entre des associations islamistes dangereuses, vous citiez tout à l'heure M. Mignon, Baraka City, et de l'autre, je les renvoie peut-être dos à dos, génération identitaire qui commet des actes illégaux lorsqu'ils occupent un chantier pour une mosquée. Oui. C'est un acte illégal. Lorsqu'ils veulent faire justice eux-mêmes en empêchant des migrants de rentrer par telle ou telle frontière, ils ont le droit d'être contre l'immigration, ils ont le droit vouloir que des migrants entrent, mais ils n'ont pas à se faire justice eux-mêmes, ils n'ont pas à intervenir. La crise d'une institution, la crise d'une démocratie, c'est quand il y a une perte des missions et des rôles des principaux groupes ou segments de la population.
Oui. Ils ne font pas justice eux-mêmes, cher Frédéric Dabi. Faire justice, c'est prononcer un jugement, comme l'a fort justement rappelé Romain Colas, et moi je suis aussi attaché à l'état de droit.
Attendons.
Moi, ce qui m'ennuie...
Pas de problème. Attendez, Sophie, si vous permettez. Simplement, il concourt, comme tout citoyen doit pouvoir le faire, au respect de la loi, et tout citoyen français est même autorisé par le code à porter assistance aux représentants des forces de l'ordre ou à dénoncer ou à faire connaître à la force publique les infractions qui sont commises par rapport à la loi qui existe.
Mais le mode opératoire n'est pas très très glorieux.
Mais si. Et alors dire que c'est une milice quand vous voyez des jeunes gens qui arrivent en Toyota avec des blousons de ski bleu, franchement, vous avez une notion de la milice, vous devriez aller voir dans d'autres pays dans lesquels moi je suis allé où j'ai vu vraiment des milices à l'œuvre. Pour ce qui est de leur concours au respect de la loi, je rappelle qu'il y a une loi en France, c'est la loi sur l'intégrité territoriale. Il y a des frontières, le franchissement illégal de frontières est interdit et l'aide au franchissement illégal de frontières aussi est point à la ligne. Et donc, on peut appeler migrants des gens qui cherchent un avenir meilleur, c'est très bien, sauf que ce sont aussi, au regard de la loi, des clandestins. Donc, il faut avoir des noms adaptés aux personnes et aux situations. Point à la ligne, je ne vais pas au-delà et je ne suis pas en plus ni avocat, ni défenseur, ni même membre de génération identitaire. Et pour terminer, je réponds à Romain Colas. Effectivement, quand je dis que génération identitaire n'était pas en l'espèce et sur cette action-là identitariste, ce n'est pas un côté identitaire qu'ils font valoir, c'est simplement le respect de l'intégrité territoriale là où l'État ne le fait pas. Point à la ligne, et c'est une action politique et non pas une action de milice organisée ou de groupe de combat. Article du Code de la sécurité intérieure sur lequel se fonde M. Darmanin en son paragraphe 6.
De toute façon,
on peut dire un mot,
Sophie, de toute façon, comme on l'a dit, il y a une action de justice, il y a un avocat qui défend l'association, donc on verra effectivement une fois que la justice sera passée. Sophie, demande-t-on.
Oui, je crois que je suis assez mesurée là-dessus, parce que je n'aime pas particulièrement, même pas du tout, l'extrême droite ni les extrémistes. Je ne comprends pas très bien tout d'un coup qu'on va dissoudre cette association qui au fond, finalement, tout d'un coup, le mot identité et identitaire devient monstrueux. Ben non, il y a une identité de la France et des Français. On l'a encore. Et oui, et c'est pas le rejet des autres que d'être identitaire. Ensuite, je pense que là, ils ont fait d'ailleurs une action. Non, on est en train de vouloir faire revenir des frontières. On est en train de vouloir faire revenir l'économie dans notre pays. Bon, oui, il y a une identité. C'est pas forcément criminel. Alors, ils ont protégé récemment. Ils ont empêché des migrants illégaux de franchir des frontières. Ils l'ont fait gentiment. C'est vrai que, est-ce que c'est leur rôle, est-ce que c'est pas leur rôle? On peut se poser la question. Est-ce que les citoyens doivent se mêler de ça? Je le pense pas forcément. Non. C'est pas non plus criminel. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations infiniment plus dangereuses contre notre pays qui devraient être dissoutes. Et puis ce qui m'agace aussi, parce que je connais pas vraiment le sujet, il faudrait que on revoie exactement tout ce qu'ils ont fait, mais je trouve que c'est un peu navrant et c'est cousu de fil blanc. Allez, on est parti dans la campagne. Tout ce qui peut de près ou de loin avoir un rapport à quelque chose qui peut nuire à Marine Le Pen, c'est bien. Alors bon, je n'aime pas non plus cette forme de faire la politique. Elle a un pourcentage de voix très important. Je ne la soutiens pas du tout. Mais ça commence à être fatigant. Tout est à l'aune de ce futur débat politique. Et on fait tout ce qu'il faut pour essayer de casser Marine Le Pen. C'est parti.
Non, mais il y a ce que disait Patrick Mignon, une réponse aussi à la dissolution du CCIF, de Baraka City, du collectif Cheikh Yassine. Voilà. Donc c'est un peu une réponse politique aussi qui est apportée par
Gérald Darmanin. Et c'est pas le rôle de Monsieur Darmanin que
non,
de faire un équilibre
rôle.
De la balance.
Je suis d'accord.
Et en plus, vous dites tous qu'il y aura une décision de justice. Oui, je pense qu'il y aura une décision de justice, mais sachez quand même que sur le plan procédural, c'est d'abord et uniquement un décret pris en Conseil des ministres qui va prononcer la dissolution, et c'est contre ce décret seulement après que pourra intervenir effectivement une décision de justice. Donc, de base, il y aura une dissolution qui aura eu lieu sur demande de M. Darmanin, et je ne vois pas que le gouvernement la lui refuse. C'est totalement indigne d'un ministre de l'Intérieur.
Surtout qu'ils vont se regrouper autrement.
Oui, ça, c'est encore un autre débat. Allez, on va peut-être marquer une pause. On se retrouve dans un petit instant. On a pas mal de sujets sur le feu. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, ensemble jusqu'à midi. Alors, comme on a Frédéric Dabi avec nous, on va en profiter pour faire de l'analyse politique. Merci. C'est vrai que le débat Marine Le Pen, Gérald Darmanin, qui d'ailleurs n'a pas intéressé grand monde jeudi soir sur France 2, marque une forme d'organisation peut-être du gouvernement pour essayer de contrôler Marine Le Pen, qui remonte dans les sondages. On l'a vu, vous l'avez, on en a parlé la semaine dernière. Vous dites que ce n'est pas une bonne stratégie et que vous craignez une très forte abstention aux prochaines élections. C'est dans un an et demi, il faut bien le dire.
Déjà, on est dans un cycle, Valérie, abstentionniste. Il se passe quelque chose jamais vu en France ou à la Ve République depuis la présidentielle, c'est qu'à chaque scrutin, le premier parti de France, le parti majoritaire qui a dépassé 50%, c'est des personnes qui ne sont pas allées voter aux législatives de juin 2017, aux européennes de 2019 et aux municipales de mars et juin dernier. C'est vrai que dans toutes les enquêtes, et je fais référence à la dernière IFOP fiduciale pour Sud Radio et le JDD du mois de novembre, où on avait testé 11 scénarios de premier tour, quel que soit le scénario, nous avons en 1 Emmanuel Macron, en 2 Marine Le Pen ou inversement. Pour autant, les Français ne veulent pas, ne souhaitent pas ce duel, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Voilà. Ouais. Mais maintenant, ce qui est vrai, c'est que ce type de débat, le fait de tel ou tel camp qui choisisse son adversaire en marche, parce qu'il y a cette vue de l'esprit peut-être qui est de dire que Marine Le Pen est mauvaise, qu'elle sera mauvaise au débat d'entre deux tours. N'oublions pas que c'était la même rhétorique, alors je remonte à loin, mais pour les giscardiens en 81, qui assurait que de toute façon, François Mitterrand était mauvais à la télévision et qu'en débat, Giscard le surclasserait. On se souvient de comment ça s'est terminé. Et puis, de la même manière, du côté du Rassemblement National, il y a l'envie d'écarter les partis historiques républicains, à savoir le PS et les Républicains eux-mêmes, pour se retrouver dans un match revanche face à Emmanuel Macron. On connaît les Français, on sait très bien que l'histoire n'est jamais écrite. On se souvient que pendant les 5 ans de cohabitation Chirac-Jospin, l'orchestration médiatique, politique, c'était 2002, ça sera la revanche, ça sera la finale. Chirac-Jospin, on sait comment ça s'est fini également.
Le problème, c'est qu'on cherche l'outsider, on en a quelques-uns, mais la droite patauge parmi quelques outsiders pas si mauvais. Moi, je pense à David Lisnard, qui est formidable, mais qui finalement ne se présentera pas. Xavier Bertrand, c'est compliqué.
Les Français ne connaissent pas du tout.
Non, ils ne connaissent pas, les Français ne connaissent pas.
Le maire de Cannes, il commence à avoir pas mal de presse. Oui. Et c'est un type absolument exceptionnel, mais effectivement, il n'est pas très connu. Cela dit, Macron, il n'était pas connu du tout.
Il était ministre.
Non, mais je voudrais qu'on revienne sur Marine Le Pen, parce que dans ce débat, jeudi soir, Gérald Darmanin a affirmé, lui a dit qu'elle était molle.
Moi, je trouve qu'ils étaient tous les deux très mauvais.
Molle et branlante, je reprends son expression. le patron des députés de La République En Marche l'a qualifié hier dans Le Parisien. Je vous fais votre revue de presse, cher Romain Colas. A dit que c'était une ennemie de la République. Éric Dupond-Moretti a dit qu'elle était menteuse et incompétente. Ouais. Et Gabriel Attal, elle est dangereuse pour notre pays. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie,
non,
encore une fois?
Non, vraiment pas une bonne stratégie.
Alors, Patrick Mignon.
Non, bah d'abord, c'est à mon avis une mauvaise stratégie, mais plus encore que pour la présidentielle qui, comme vous l'avez rappelé, est très lointaine, c'est pour éviter de se prendre la claque aux régionales, parce que les régionales qui sont maintenues en juin pour LREM, ça risque d'être une sacrée débâcle. D'abord, vous avez raison, Frédéric Dabi, il y aura une abstention et je pense qu'au régional, elle risque d'être encore plus forte, et largement au-dessus des 50, d'ici même 55. Les départementales, je ne sais pas ce que ça donnera si elles sont maintenues et si ça reste dans la même veine. Donc en fait, je crois qu'ils gèrent leur com au jour le jour. Ils ont trouvé un épouvantail en la personne de Marine Le Pen, comme il y en avait un avant en la personne de son père, comme il y en a un avec le RN maintenant. Tout le monde est très content dans le petit monde politique. Ça permet de prendre la parole au peuple français et de les assigner à un vote quasiment établi d'avance. Vous venez de le dire, David Lisnard, qui pourrait être quelqu'un de bien, est pas suffisamment connu. En fait, tout est joué d'avance dans cette élection dite démocratique. Eh bien, nous, à Via la Voix du Peuple, on le refuse et on pense qu'il y a d'autres possibilités offertes au peuple français. Jean-Frédéric Poisson en est une, jamais mentionnée. C'est mon rôle aussi de.
Oui, parce que il fait partie de votre parti. C'est dans votre parti.
Bien sûr. Il y en a d'autres. On oublie. Je suis étonné de ne pas vous avoir entendu parler des Verts, qui peuvent jouer les troubles faits. Et c'est pas du tout un parti que je soutiens et que j'apprécie. Mais bon, voilà. Donc. Cette manière d'assigner les gens à leur vote, ça me rappelle le début de notre discussion de cette émission. On a trop tendance aujourd'hui dans la com et dans tous les médias à vouloir assigner les gens à quelque chose auquel ils ne veulent pas l'être. Et du coup, on a une abstention supérieure à 50 et largement supérieure à 50.
Une auditrice nous dit, ça fait plus d'un an que j'entends les médias dire que c'est Macron contre Le Pen. Ça n'aide pas du tout à ce que ça ne se produise pas. Et c'est désolant, cette communication. Romain Colas.
Le match Macron-Le Pen, je ne sais pas si vous vous en souvenez Valérie, mais ça fait déjà quelques années que j'en parle chez vous, c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Depuis le départ, Emmanuel Macron a cherché à faire exploser, c'est ce que disait Frédéric Dabi, les familles politiques traditionnelles. Est-ce qu'il a été la cause, est-ce qu'il a été le symptôme? La vérité, c'est un peu des deux. Les familles politiques traditionnelles, y compris celle à laquelle j'appartiens, le PS, ont été dépassées parce qu'elles n'ont pas su s'adapter sans doute aux enjeux du moment, inventer un nouveau récit politique et puis donner de la crédibilité à ce qu'il pouvait à ce qu'elle pouvait proposer. Mais Emmanuel Macron, depuis le départ, c'est sa stratégie, parce qu'il pense que sa garantie de victoire, c'est d'être confronté à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, a porté cette volonté et il la met encore en scène en tapant de cette façon-là et en organisant la cogne sur Marine Le Pen. Et je vous disais déjà il y a quelques années, et désormais il y a un certain nombre de sondages qui malheureusement me donnent raison, qu'à un moment ce jeu devenait dangereux, parce que toujours les Français se lassent de leurs gouvernants. Il y a toujours un moment où ça arrive. Et s'il n'y a qu'une alternative à celles et ceux qui gouvernent, c'est Marine Le Pen, moi je fais partie de celles et ceux qui considèrent que c'est un danger pour notre pays. Mais Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable de tout ça. Il occupe un espace que d'autres laissent vacant. Et là, en tant que représentant du PS, je dois vous confesser et mon désarroi et ma colère face à l'irresponsabilité collective de la gauche.
Oui.
Parce que, très franchement, je pense, et je demande encore 2 minutes pour développer mon raisonnement et j'en termine, je pense que ce n'est pas à droite qu'il peut y avoir demain une alternative au match... Le Pen,
Le Pen Macron, certainement pas,
pour la simple et bonne raison que Macron a siphonné l'électorat de droite.
Il n'y a plus de gauche.
Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite.
On voit bien que la politique qu'il conduit, de toute façon, est une politique qui est inspirée par la droite. Et d'ailleurs, on voit des responsables de la droite proposer des alliances dans le cadre proposer des alliances à droite. Dans le cadre de la préparation des prochaines régionales, qui sont, je partage ce que dit Patrick Mignon, une vraie zone de danger pour la majorité présidentielle. Mais à gauche, il y a une responsabilité. C'est d'être effectivement à la hauteur du moment. La gauche, je ne dirais pas comme Sophie de Menton à l'instant qu'elle n'existe plus. La vérité, c'est qu'elle est éclatée façon puzzle.
Ouais.
Et Frédéric Dabi confirmera ou infirmera ce que j'ai à dire. Il existe un bloc dans les intentions potentielles de vote, s'il était rassemblé, au moins aussi fort que Macron et Le Pen, qui est le bloc social-démocrate écologiste. Mais je suis désespéré parce que les autres familles que le PS, dont vous avez compris que depuis quelques mois, d'ailleurs certains lui en font le reproche, essayent d'être responsables pour un, pour deux, pour trois, dans la nécessité de l'union de la gauche et des écologies, le PS est bien seul sur ce chemin-là. Et c'est la meilleure façon pour la gauche, si elle est irresponsable, d'accompagner ce, l'émergence de ce match qu'on nous dit comme inéluctable.
Le problème, c'est qu'on ne sait plus ce que c'est que la gauche, et ce n'est pas d'ailleurs une critique, parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait une gauche d'ailleurs qui évolue, qui soit capable de prendre en compte les évolutions de l'économie, de la mondialisation, des Verts, et on dirait qu'il n'y a pas de réflexion à gauche, et que personne ne s'y met, c'est resté une vieille idéologie finalement, la gauche. Mmh. Et moi j'aimerais bien une gauche ouverte, etc. D'ailleurs Macron, qui était supposé être à gauche, aurait pu jouer ce rôle. Le problème, c'est qu'on ne sait plus.
Alors, Frédéric,
est-ce qu'il y a une alternative?
Ce que vous aimez, cher Sophie Dumontant, c'est quand la gauche devient de droite. Hein.
Ah, bah ça, c'est votre débat, c'est un débat classique. Mais ce qui est assez en fait intéressant, est-ce qu'il y a une alternative, un réceptacle au mécontentement à l'égard du président Macron, qui est structurellement impopulaire, il faut le dire, même s'il a un socle important.
Moins que les autres, non?
Oui, à gauche et à droite. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il occupe un espace central. Il a, dans toutes nos enquêtes, il faut fiduciale pour Paris Match et Sud Radio, en gros, il reprend trois quarts de son électorat de 2017, quand François Hollande en prenait à peine 45% et Nicolas Sarkozy à peine plus. Il séduit un sympathisant de droite sur deux et, il ne faut pas oublier, pardon de le dire, M. Colas, un sympathisant de gauche sur trois. Parce que ces électeurs de gauche sont peut-être mécontents, mais ils ne trouvent pas d'alternative. Ils ne trouvent pas de réceptacle, mais c'est vrai qu'il y a un bloc à gauche dans notre enquête annuelle pour l'humanité. On a, en gros, 40% des Français qui se situent à gauche sur un axe gauche-droite.
Est-ce que c'est le centre?
L'espace central que veut occuper Emmanuel Macron. Et c'est vrai que pour l'instant, la division de la gauche est très préjudiciable. Et je me souviens d'un dessin dans les années, au début des années 80, où on voyait Giscard d'Estaing serrer la main à Georges Marchais en disant « je compte sur vous » à la présidentielle. On peut dire que Jean-Luc Mélenchon est d'une certaine manière un allié objectif, ça va faire hurler sur les réseaux sociaux, mais je le pense quand je vois les enquêtes, pour une réélection d'Emmanuel Macron et l'émergence, plutôt l'impossibilité de voir émerger un bloc social écologiste qui pourrait peut-être pas concurrencer, mais qui aujourd'hui pèse entre 15 et 18% d'intention de vote.
Oui. Et peut-être qu'aussi, si on avait une droite de l'autre côté qui soit moins...
Absolument.
Freinée dans le retour à ce qu'elle était initialement, c'est-à-dire une droite conservatrice, mais ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est au contraire une qualité, le conservatisme de tradition qui n'a rien à voir avec des positions réactionnaires, passéistes, figées et autres. Ça peut être très dynamique et c'est d'ailleurs ce que nous proposons. Si on avait une droite qui soit un peu plus ouverte à ce genre de choses plutôt que de rester de manière obtuse sur son monolithe qui est censé représenter LR et l'ex-UMP, eh bien, ça serait peut-être un autre paysage politique qui fonctionnerait peut-être un peu mieux.
Possible. Allez, on va changer de sujet. Peut-être qu'on va marquer une pause maintenant. Ça nous laissera un petit peu plus de temps. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va revenir sur les différentes annonces du gouvernement et cette question, la France est-elle prête à surmonter une possible troisième vague avec des variants anglais qui sont de plus en plus présents sur le sol français et de plus en plus contaminants. Les hôpitaux, cliniques et agences régionales de santé ont reçu hier via la Direction générale de la santé une circulaire dans laquelle il leur est demandé de se réorganiser au plus vite, donc ça veut dire reporter des opérations parce qu'on ne peut pas faire face. Alors c'est vrai qu'il y a une baisse des contaminations depuis bientôt deux semaines, mais de l'avis des médecins, c'est un petit peu tôt pour crier victoire et surtout pour en tirer un quelconque enseignement. Et puis dans le même temps, donc le gouvernement a annoncé lever le dispositif qui avait été mis en place dans les écoles. Bon, ça tombe bien parce que c'est les vacances scolaires, donc on va bientôt il y aura plus beaucoup d'écoles ouvertes. Mais on a un petit peu de mal à comprendre que d'un côté, on nous dise que la situation s'aggrave et de l'autre, on n'en fasse pas plus.
Pour une fois, j'ai été très sévère parce qu'on a été si mauvais sur les masques dans les entreprises, sur les tests dans les entreprises, sur tout. Alors que je me suis battue et que c'est encore des boîtes privées qui installent y compris les centres de tests, des boîtes privées qui font uniquement le management. Bien sûr, c'est pas nous qui achetons les vaccins. Mais il faut relativiser tout ça. On a compris maintenant qu'on en avait pour 2 ans au moins de ces virus. C'est clair. Je veux dire, il va pas être éradiqué comme ça. Donc, on va vivre un peu avec. On est en retard sur les vaccins. Et là, malheureusement, c'est plutôt la faute de l'Europe et des labos et que le gouvernement français n'y peut pas. Je trouve qu'il a pris un risque très fort, le président, en disant tout le monde sera vacciné cet été. Je pense que c'est pas possible. Et il faut que le pays continue à vivre. Il va falloir, même s'il y a des variants anglais, qu'on ouvre des musées. Parce que c'est pas là que le variant anglais va... si on y va, très peu de... Si on est testé avant, ce qu'on a proposé, testé avant, on va dans un musée, très peu nombreux, etc. Donc, on est dans une stratégie de vivre avec. Et je trouve ça intelligent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, loin de là. Même vacciné, il faudra garder des gestes barrières. Même vacciné, parce qu'on peut être porteur. Ce variant anglais, il va arriver en France. Parce qu'il est plus fort que l'autre variant. Et médicalement parlant, on sait que quand un variant est plus fort que l'autre, il bouffe l'autre. Le virus est un animal. Il est bouffé par le plus fort. Donc on va avoir ça. Il faut quand même se rappeler que 99,70% des gens qui ont eu le Covid vont bien, merci. Donc il va falloir vivre avec. Alors c'est pas contradictoire, il y a une région malheureusement qui est envahie, alors là, de variants qui sont plus embêtants, qui sont les variants africains, qui résistent au vaccin, ça c'est beaucoup plus embêtant. Mais on est en train de gérer cette région et je pense que maintenant il va falloir
On est en train de gérer. Ils sont quand même sous l'eau là. Ils sont à plus de 130% d'occupation.
Oui, ils sont sous l'eau.
90% sont des Covid. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les hôpitaux ont énormément de mal à gérer cette situation.
Eh ben il faut faire comme les Chinois qui ont été brillants, qui installent des hôpitaux, y compris en Italie d'ailleurs.
Oui, mais
des
ça,
hôpitaux
c'est pas. Vous savez très bien que c'est pas. Mais vous mettez qui dans les hôpitaux? Vous les trouvez où, les réanimateurs? Vous trouvez où les infirmières?
On les a. Il suffit de les payer mieux et d'appeler ceux qui sont à la retraite. Appeler les retraités. On l'avait fait. On ne le fait pas. Il y a des ressources. Payer les gens, appeler les retraités, et on y arrive. Et alors, en plus de ça, il faut soigner plutôt que...
Pour l'instant, il n'y a pas de médicaments qui soignent,
alors,
Sophie.
Non, mais il y a quand même les sérums qui sont assez efficaces, et on peut le prendre très tôt.
Les sérums?
Est-ce qu'on ne fait pas? Oui.
Alors, on ne va pas s'embarquer là-dedans.
Moi, ce que je vois quand je regarde nos dernières enquêtes IFOP pour Sud Radio, c'est que le président de la République a... je dirais, clarifier la situation et créer un effet un peu psychologique il y a maintenant presque 3 semaines, hein, quand il a été décidé de ne pas reconfiner. De nouveau, on a un cap clair qui est vaccination et éviter à tout prix un reconfinement. Les Français l'ont relativement intériorisé parce que dans notre balise de la semaine dernière, Valérie, on avait de 2 semaines à l'autre, 17 points de moins en termes de pronostic d'un confinement dur comme celui du printemps. Mais malgré tout, 2/3 des Français ont intériorisé qu'un confinement mode octobre-novembre va sans doute advenir. Moi, je vois que l'inquiétude sur les variants est extrêmement forte. Elle tangente l'inquiétude économique. Et puis voilà, et c'est ça qui, je dirais, mine la confiance de l'opinion publique. On est sur le même schéma, reconfiné pour éviter l'embolie dans les hôpitaux, pour au final déconfiner et encore reconfiner. Puisque quand on interroge les Français sur la sortie de crise, ils étaient, après le premier confinement, dans une logique août 44, c'est-à-dire ce sera fini à l'été. Là, clairement, personne ne se projette jusqu'à avant fin 2021 et on parlait, Valérie, d'élection présidentielle. Sans doute, peut-être, je n'en sais rien, personne ne peut dire, que nous vivrons une campagne présidentielle dans un contexte de pandémie et de crise sanitaire.
Ouais. Oui. Patrick Mignon.
Écoutez, cher Frédéric Dabi, moi je pense que les gens qui répondent à vos sondages, notamment sur les questions confinement ou pas confinement, sont éminemment soumis à ce qu'ils entendent sur les ondes radio et télévision.
Les Français qui ne sont pas juges.
C'est-à-dire que ça dépend éminemment de la communication et du sens que donne à cette communication le gouvernement. Quand vous les interrogez sur leur sentiment de sortie de crise, là, ils se projettent en tant qu'individus et ils vous font part de leurs espoirs.
On ne voit pas d'espoir, malheureusement, mon cher Patrick. On ne voit vraiment pas d'espoir sur la sortie de crise.
Non, mais je suis d'accord. Leurs espoirs ou leur manque d'espoir. On est d'accord. Leurs espoirs négatifs.
Il faut aussi dire un mot sur les médias qui prennent la mauvaise, le dramatique systématiquement. Oui, je suis désolée, je les aime bien, mais vous ne pouvez plus regarder, être abreuvé de nouvelles catastrophes.
Mais par contre, je suis d'accord avec Valérie quand elle dit que on ne fait pas ce qu'il faut au niveau, et Sophie d'ailleurs, on ne fait pas ce qu'il faut au niveau des réanimateurs, des respirateurs, des personnels, des structures, etc. On nous avait promis 12 000 lits. on est passé de 7000 à 5005 et tout le monde l'oublie. Alors, je veux bien qu'il y ait des difficultés, mais comme vous l'avez rappelé, cette maladie fait 0,3% de morts, ce qui est toujours beaucoup trop et navré pour ceux qui sont effectivement décédés ou qui vont décéder de cette maladie. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre à l'arrêt de nouveau un pays ? Moi, je ne le pense pas.
Et de tuer d'autres gens ?
On devrait mettre l'accent sur les traitements. Je l'ai déjà dit dans cette émission. Il n'y a pas de traitement direct d'un virus. Ce n'est pas comme une bactérie. Encore une fois, je pars sous le contrôle des médecins. Mais moi, je considère qu'il y a des traitements qui ont été proposés. On peut dire qu'ils marchent ou qu'ils ne marchent pas. Peu importe. Il faut regarder les résultats.
Non, pas peu importe.
On ne met pas beaucoup l'accent sur ces traitements, je trouve. Vous nous dites, Valérie, parce qu'il n'y a pas de preuves
que ces traitements marchent.
Le vaccin, c'est mieux qu'un traitement, les amis, quand même.
Qui est plus faible. Et vous nous dites que dans les régions où ils sont sous l'eau, ils vont fermer, ils vont décaler des rendez-vous.
Mais pas que dans ces régions-là, partout.
On va retomber dans la situation de mars où des gens vont décéder de non-traitement sur des maladies ou des pathologies graves, cardiaques ou cancers ou autres.
C'est bien pour ça qu'il faut limiter la propagation du virus. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas que les hôpitaux soient sous l'eau.
On ne peut pas confiner les gens, Valérie, c'est pire après.
Il faudrait juste qu'on ait aussi des vaccins. Romain Colas, comment ça se passe chez vous ?
Prochain rendez-vous en mai, les vaccins.
Comment ça se passe chez vous pour la vaccination ? Faites-nous un point.
Difficilement, pour vous dire les choses très franchement. L'État a souhaité, par l'intermédiaire du préfet de mon département de l'Essonne, pour le territoire qu'est le mien, implanter deux centres de vaccination. Donc, j'ai deux centres qui ne sont pas très, très loin de ma commune, l'un qui est à 4 km, l'autre à 10. Les rendez-vous arrivent au compte-gouttes, et compte-gouttes sans mauvais jeu de mots, c'est en fonction de l'arrivée des gouttes de sérum pour pouvoir vacciner. Donc très objectivement, grâce à l'engagement des collectivités locales, auprès de l'État, et là il n'y a pas de politique politicienne qui compte, les collectivités locales, dès lors qu'elles sont sollicitées, elles sont disponibles, elles font le boulot pour faciliter la mise en œuvre de la campagne de vaccination. Et de ce point de vue-là, le maillage dans notre territoire des collectivités locales, qui est souvent critiqué, qu'on compare bien souvent à un millefeuille, il donne la pleine mesure de son efficacité, de son utilité, dès lors qu'il s'agit d'être agile sur le terrain et de mettre en œuvre rapidement un certain nombre de solutions au bénéfice de la population. Mais on a le problème de la faiblesse du nombre de rendez-vous, qui est liée simplement à la faiblesse du nombre de doses. Donc tout ça va monter en puissance. Nous, on en est réduit aujourd'hui, les élus locaux, à inciter à la patience et donc à la prudence, au maintien absolu de la prudence, ceux de nos concitoyens qui seraient appelés parce qu'ils sont publics prioritaires à se faire vacciner mais qui n'ont pas encore de rendez-vous. En tout cas, il y a pas d'esprit polémique chez les locaux aujourd'hui. Il y a une disponibilité. Ce qu'on veut, c'est les doses et les pouvoir les administrer le plus rapidement possible.
Moi, je reconnais tout à fait. Je suis aussi dans l'Essonne que quelle que soit la couleur politique de la municipalité, toutes les municipalités font le maximum et heureusement, sinon l'État aurait été complètement débordé. Heureusement aussi que certaines entreprises, Sophie de Menton, ont pris les devants pour les masques parce que là, c'était bien assumé le débordement de tout ça. On est bien d'accord. Le problème, Valérie, c'est que vous parlez de la suite et vous semblez croire que le vaccin va éradiquer le problème. Mais avec tous ces variants et comme on est face à des coronavirus, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est des virus qui ont une particularité, une facilité de mutation importante. C'est comme la grippe, en fait. Et donc, tous les ans, on se retrouve avec des campagnes de vaccination des personnes à risque de plus de 65 ans pour la grippe, sauf que cette maladie est effectivement un peu plus stressante et plus mortelle. Je ne crois pas, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas si elle est plus contagieuse que la grippe, mais peut-être qu'on en fait plus. Il faut peut-être prendre des mesures et que les gens commencent à vivre avec. Moi, je crois que malheureusement, Frédéric Dabi a parlé d'une campagne électorale en période de pandémie. En 2030, on sera peut-être encore dans ces trucs-là.
Il faut garder quand même un peu d'espoir et de.
Mais j'ai de l'espoir. Mais pour la grippe, on a tous de l'espoir, mais. Tout le monde la voit arriver tous les ans. Il y a l'opération Sentinelle qui est gérée par Pasteur.
Mais si vous devez être vacciné tous les ans, vous serez vacciné tous les ans.
Bah oui. Bah oui, avec en plus des vaccins dont on n'est pas certain que...
Bah, là, pour l'instant, encore une fois, les retours qu'il y a semblent être plutôt satisfaisants en ce qui concerne le vaccin Pfizer. L'AstraZeneca, ça a l'air d'être une autre histoire, Frédéric.
Oui, je ne suis pas spécialiste. Non, c'est vrai que quand même, quand on interroge les Français, on a vraiment eu un mouvement d'opinion publique. Il y a eu une mauvaise interprétation des sondages du mois de décembre où il y avait peu de Français qui voulaient se faire vacciner.
Oui,
mais c'était
fou, hein.
C'était déjà majoritaire chez les personnes âgées, mais c'était moins une défiance vis-à-vis du vaccin, on est comme le pays de Pasteur, qu'un certain attentisme. Et maintenant, l'équation vaccin moyen le plus sûr, même si j'entends ce que dit Patrick, de retrouver le chemin d'une vie normale, a quand même clairement fait sens dans l'opinion publique. Notre dernière enquête pour Sud Radio, on avait presque deux tiers des Français qui étaient favorables, 80% des personnes âgées. Alors, bien sûr, il y a ces craintes que les variants rendent certains vaccins inefficaces. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Quand je vois l'expérience israélienne, on a vraiment un effet très positif d'une population massivement vaccinée avec un effondrement du nombre de personnes admises en réanimation.
Avec un confinement dur aussi.
Et quel drame d'avoir choisi la stratégie de vacciner les EHPAD en premier.
On va pas revenir dessus.
Il faut quand même dire qu'il y a des gaffes qui vont très loin dans l'avenir. Le personnel soignant, moi je vais pas être vacciné.
On peut pas obliger les gens à être vaccinés.
Eh ben, écoutez, si. Il y a un moment où c'est un devoir.
Non,
je suis désolée. Ou alors, ils vont faire quelque chose d'autre. On ne peut pas avoir du personnel non vacciné chez des gens fragiles. Ouais. Regardez le personnel hospitalier vacciné.
Un mot sur le nouveau protocole sanitaire pour les écoles. Si deux cas de Covid sont détectés dans une école dont un variant anglais, pas de fermeture de classe, puisqu'il en faudrait trois. Donc, tout ça change. Alors, évidemment que c'est compliqué de prévoir. On ne connaît pas ce virus qui change. Mais c'est vrai que dans les écoles, et on avait tout à l'heure un biologiste qui nous expliquait que la mise en place des tests salivaires semblait être de l'ordre de l'usine à gaz, c'est-à-dire pas assez de personnel pour aller faire les prélèvements, etc.
Et vous savez pourquoi ? Je vais vous le dire.
Dites-nous,
Sophie. Parce que c'est le lobby des laboratoires et des pharmaciens qui a voulu que les tests soient dépistés en laboratoire, ce qui fait un encombrement terrible. Nous avons au sein
d'éthique... C'était un laboratoire qui se plaignait du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel.
Vous avez raison, mais parce que les lobbies ont voulu ça, mais les laboratoires indépendamment commencent à être complètement débordés. Et pour une analyse normale, il faut 3 semaines d'attente maintenant. Or, nous avons avec EasyCov, avec une entreprise du mouvement éthique, regardez si on pouvait faire des tests salivaires. Oh, c'est pas de la pub, alors là. Des tests salivaires dans nos entreprises, parce que ça allait vite, au retour des vacances. C'est quelque chose qu'on dépouillait. Il y avait une infirmière qui dépouillait exactement comme pour les tests antigéniques.
Pourquoi ça n'a pas marché ?
Parce que le lobby des labos au ministère de la Santé est très puissant et a décidé que les tests salivaires seraient détectés au sein des laboratoires. Vous pouvez demander à n'importe qui, c'est absolument la vérité.
Vous nous refaites le coup de Big Pharma, Sophie. Hein.
Pardon ?
C'est exactement la même chose. Vous nous refaites le coup de Big Pharma, c'est la même chose pour les vaccins. On a l'impression et on a le sentiment qu'on met le paquet sur les vaccins parce que ça donne un espoir pour l'avenir. En réalité, pour ce qui est de la grippe maintenant qui est bien établie, on a un vaccin qui arrive annuellement et on fait du traitement symptomatique par ailleurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut mettre maintenant le paquet sur les traitements. Ne serait-ce que symptomatiques, trouver des traitements qui aident les gens à passer le cap.
Je pense que tout le monde. Alors, Romain Colas. Sur les écoles.
Sur les écoles, je vais y revenir si vous voulez, sur cette histoire traitement versus vaccin, qui peut croire sérieusement qu'aujourd'hui, et je suis vraiment pas, vous l'avez compris, un soutien de l'actuelle majorité et du gouvernement, mais je crois pas qu'il y ait un gouvernement aujourd'hui qui ne souhaite pas sincèrement trouver les voies et moyens de sortir rapidement de la situation dans laquelle nous sommes. Donc moi, je suis très très loin des procès d'intention, des influences de tel ou tel lobby, même si je ne suis pas complètement naïf sur la capacité de conviction que peuvent avoir certains d'entre eux. Mais moi, je ne fais pas de procès d'intention à l'égard de celles et ceux qui nous dirigent, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, parce que je crois que sincèrement, toutes et tous, au regard du coût humain, du coût social et du coût économique et budgétaire de tout cela, ont la volonté de sortir.
Ce ne sont pas des procès, mais ce sont des erreurs.
Alors, laissez terminer.
Je ne fais pas partie de ceux qui relativisent, en revanche, la gravité de la situation sanitaire. On dit que c'est 0,3% de mortalité. Enfin, la vérité, c'est qu'il y a l'équivalent de 330 tous les jours de personnes.
Et ce sont des gens.
Si on avait un avion qui se crachait tous les jours, ça ferait la une des journaux et c'est l'équivalent du nombre de décès quotidiens.
Cher Romain Colas, puisque
notre,
vous abordez le
dans notre pays,
attendez, laissez-le terminer.
Si vous voulez bien, sur la situation des écoles, la vérité, et là aussi je me garde de tout procès d'intention, c'est que le gouvernement, et en ce sens-là, il a tout mon soutien, fait tout pour qu'on garde au maximum les établissements scolaires.
Oui.
Et il le fait pour une raison qui est simple. Moi, j'ai pu le mesurer comme maire d'une petite commune de 8000 habitants. L'absence des élèves à l'école, et notamment des plus fragiles d'entre eux, parce que c'est toujours les mêmes qui payent l'addition, est dramatique. Et moi, je ne relativise pas le sort de celles et ceux qui souffrent ou qui décèdent du Covid, mais dans le même temps, je me préoccupe du sort d'une génération, celle qui est sur les bancs des écoles, des collèges, des lycées, des facs aujourd'hui, qui risquerait d'être sacrifiée si on la contraignait à être trop éloignée.
C'est tout à fait louable. Pour revenir simplement sur l'histoire des avions, n'oubliez pas que quand vous achetez un billet d'avion, le transporteur a une obligation de résultat qui est de vous amener entier à destination, ce qui n'est absolument pas le cas de la médecine, et notamment de la médecine préventive, qui n'a qu'une obligation de moyens.
Bon, merci, c'est dit. Merci, ce sera le mot de la fin. Sinon, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio dans un instant. André Bercoff.